Nous nous retrouvons encore une fois pour avancer dans notre voyage à travers les règles de discernement des esprits selon les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Nous en sommes au 7e épisode de cette série de 16 épisodes qui est l'adaptation française de la série d'entretiens en anglais « Le discernement des esprits, libération des captifs » du père Timothy Gallagher. Les entretiens en anglais se retrouvent sur la chaîne YouTube « Discerning Hearts ».
C'est Isabelle Rebel qui vous parle.
5e règle. Il importe, au temps de la désolation, de ne faire aucun changement, mais de demeurer ferme et constant dans ses résolutions et dans la détermination où l'on était avant la désolation ou au temps même de la consolation. Car, comme ordinairement c'est le bon esprit qui nous guide et nous conseille dans la consolation, ainsi dans la désolation, est-ce le mauvais esprit sous l'inspiration duquel nous ne pouvons prendre un chemin qui nous conduise à une bonne fin? La 5e règle est inestimable. Si vous deviez ne retenir qu'une seule chose de cette série, ce devrait être la règle numéro 5. Elle vous sauvera un nombre incalculable de fois tout au long de votre vie, comme elle l'a fait pour tant d'autres. Après avoir expliqué dans les 4 premières règles la base du discernement des esprits, à savoir les 3 étapes clés du discernement, prendre conscience, comprendre, agir, les vicissitudes normales de la vie spirituelle sous l'effet des esprits, les manifestations de la consolation et de la désolation, Ignace, dans les règles suivantes, propose une série d'outils pour rejeter les tactiques décourageantes de l'ennemi dans les périodes de désolation. C'est son principal objectif et la raison en est bien simple. Nous sommes tous d'accord que c'est la désolation qui est le problème principal de la vie spirituelle, quand on se sent découragé, abattu, et qu'on se replie, qu'on se retire, qu'on cesse d'avancer. Dans la règle numéro 5, Ignace explique ce qu'il ne faut pas faire dans les périodes de désolation. Il importe, au temps de la désolation, de ne faire aucun changement. Aucun changement, dit-il. Mais de demeurer ferme et constant dans ses résolutions et dans la détermination où l'on était avant la désolation. Il est 9h du soir, je suis seule dans ma chambre, je n'ai pas envie de prier, je ne sens pas la présence de Dieu. Ou bien je suis inquiète, j'ai des soucis financiers ou familiaux et je suis vraiment perturbée, ça fait une semaine que je n'arrive pas à prier, je n'en ai pas l'énergie. Ces deux situations décrivent des personnes qui traversent une période de désolation. Quand je suis en mesure de regarder ce qui se passe en moi et de prendre conscience que je vis un temps de désolation spirituelle, c'est le moment d'appliquer la règle numéro 5. Ne faire aucun changement dans ma vie spirituelle, aucun changement dans les résolutions ou la détermination que j'avais prise ou mise en place avant d'entrer dans cette période de désolation. Si j'avais décidé de participer au groupe d'études bibliques le mercredi soir, de réserver du temps le matin pour prier, de commencer un livre de spiritualité, d'essayer une nouvelle manière de vivre à la manière du Christ ma relation avec quelqu'un que je trouve difficile dans ma famille, quel que soit ce que j'avais prévu, je ne fais aucun changement en temps de désolation. Par exemple, j'avais appelé le prêtre pour prendre un rendez-vous avec lui parce qu'il y a quelque chose qui me préoccupe et j'ai besoin de ses conseils. Nous sommes mardi et le rendez-vous est prévu pour vendredi. Je l'attends avec impatience parce que, à d'autres occasions, ce prêtre m'a déjà énormément aidé. Je reçois un coup de téléphone, un problème dans la famille qui me pèse. Rien de spirituel, mais soudain je me sens découragée, le cœur lourd, et je laisse tomber ma routine de prière. Nous sommes maintenant jeudi soir. Le rendez-vous de vendredi avec le prêtre me revient à la mémoire. Mais maintenant mon état d'esprit et mes pensées sont complètement différents. À quoi bon? Pourquoi perdre mon temps? J'ai déjà essayé plusieurs fois de travailler sur cet aspect de ma vie spirituelle que je voulais discuter avec lui. Et ça n'a rien donné. Il va me dire toutes sortes de choses très gentilles. Il sera très patient et inspirant. Mais il saura, et moi aussi, que rien ne va changer. Je vais simplement l'appeler et lui dire que je suis trop occupée, que je dois annuler. 2 questions à se poser. Suis-je dans un temps de désolation? Clairement oui. Suis-je sur le point de changer une résolution que j'avais prise avant que ne commence la désolation? Clairement oui. Qu'est-ce que Saint Ignace me recommande de faire dans ces circonstances? Ne faire aucun changement. Alors que devrais-je faire? me rendre à ce rendez-vous vendredi exactement comme prévu. Voyons un autre exemple, celui d'un homme qui tous les ans participe à une retraite de 2 jours. C'est une habitude qui lui fait beaucoup de bien. Plusieurs mois d'avance, il réserve son week-end et s'inscrit à une retraite dans une maison de prière près de chez lui. Et il s'en réjouit d'avance. Même scénario, alors que la date approche, il se passe quelque chose dans son quotidien qui le perturbe, pas spécialement spirituel, mais qui parasite sa vie spirituelle et dérègle ses habitudes de prière. Et voilà qu'il réalise que dans quelques jours, il sera absent, parti pour sa retraite. Et, même genre de pensée, je suis trop occupé, de toute façon à quoi bon, je n'ai pas l'énergie. Dans le fond, je ne tiens pas à y aller. Encore une fois, 2 questions. Est-il dans un temps de désolation? Clairement oui. Est-il sur le point de changer une résolution qu'il avait prise avant que ne commence la désolation? Clairement oui. Qu'est-ce que cet homme devrait faire? Il devrait aller à la retraite, comme prévu. C'est la recommandation de saint Ignace. Si je sais que je suis en désolation, et c'est pour cela qu'il est très important d'identifier et de prendre conscience quand on y est, et si je pense revenir sur une résolution ou un plan que j'avais fait avant la désolation, je dois rester ferme et abandonner immédiatement toute idée de changement. Il n'y a aucune exception à cette règle. On parle bien sûr de désolation spirituelle et de résolution ou plan spirituel. Parce que dans les domaines temporels, non spirituels, il se peut qu'il y ait des occasions où le changement soit la meilleure option. Par exemple, cette personne qui veille tard, soir après soir, et finit par s'épuiser, aurait tout intérêt à apporter des changements dans ses habitudes. Elle a besoin de plus de repos. Mais là, on parle de désolation non spirituelle. Quelquefois, c'est changer une habitude temporelle qui règle le problème de désolation spirituelle. Cependant, le plus souvent, ce que saint Ignace nous enseigne sur la désolation spirituelle s'applique aussi à la désolation non spirituelle. En corollaire, cette règle doit nous pousser à prendre des décisions mûrement réfléchies, à exercer tout le discernement nécessaire avant de nous engager dans une certaine pratique spirituelle, à ne pas nous précipiter sur une nouvelle idée ou dans un nouveau projet spirituel sans avoir pris le temps de l'évaluer avec prudence. Que ce soit pendant la consolation ou la désolation spirituelle, ou pendant ce que saint Ignace appelle les temps tranquilles, car on n'est pas toujours en consolation ou en désolation, il y a des moments dans la vie où on avance en eau calme, et ces moments-là sont également à recevoir avec gratitude. Finalement, quel que soit notre état d'âme spirituel, il est toujours extrêmement sage de prendre chaque décision, et c'est encore plus vrai pour les décisions majeures, avec prudence et réflexion, après consultation et dans la prière. Et en plus, c'est la leçon de la 5e règle, il ne faut jamais, au grand jamais, changer ses plans en période de désolation. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a jamais à apporter des changements aux résolutions et aux projets spirituels. Les périodes de paix et de tranquillité et celles de consolation sont les moments favorables pour décider avec sagesse et prudence, dans la prière et après consultation, comme on l'a dit, s'il faut envisager des changements. Mais encore une fois, pas dans les temps de désolation. C'est le message très très clair de la règle numéro 5. Pour ceux qui sont fans de Tolkien et qui connaissent l'univers du Seigneur des Anneaux, vous vous souvenez probablement que Frodon rencontre Dame Galadriel juste avant d'entamer la partie la plus sombre de son voyage. Vous savez que Tolkien était catholique et plusieurs critiques voient des similitudes avec la Vierge Marie dans la noblesse et la bonté du personnage de Dame Galadriel. Elle lui offre une petite fiole étincelante en lui souhaitant qu'elle vous soit une lumière dans les endroits ténébreux quand toutes les autres s'éteindront. C'est ce que la règle numéro 5 peut devenir pour nous. Quand tout est sombre et va mal et qu'il semble indispensable de changer mes plans, de ne pas aller à cette retraite, de ne pas parler au prêtre, de laisser tomber le groupe biblique, quand tout, les plus petites choses, entre guillemets, par exemple mon habitude de prière quotidienne, comme les grandes, mon choix vocationnel, semble me dire que je n'ai rien compris, que je me suis trompé, que je dois changer, cette petite règle numéro 5 sera votre lumière quand toutes les autres se seront éteintes. En temps de désolation, ne jamais rien changer. deux questions à se poser. Suis-je en train de traverser une période de désolation? Suis-je en train d'envisager de changer une résolution prise avant la désolation, une habitude en place avant cette période difficile? Sans aucune exception, quand la réponse à ces deux questions est oui, je ne dois pas céder à l'idée de changer, mais plutôt demeurer ferme et constant dans mes résolutions et dans la détermination où j'étais avant la désolation ou au temps même de la consolation. C'est une règle d'or à ne jamais oublier, qui nous sauvera souvent. Le plus difficile peut être dans ces périodes de doute, la douleur la plus intense, la morsure la plus cuisante de l'ennemi, c'est l'idée d'avoir pris au départ la mauvaise décision. Premièrement, je n'aurais pas dû m'engager, je n'aurais pas dû prendre cette décision en premier lieu. Dans la confusion et la noirceur de la désolation spirituelle, la perspective de changer ce que j'ai décidé, ma vocation, ma vie de prière, mon implication dans la paroisse, semble soudain très clairement être la seule manière de corriger ce qui m'apparaît maintenant comme une erreur à la base. Et les deux questions deviennent mon phare. Suis-je en train de traverser une période de désolation? Est-ce que ma relation avec Dieu est pesante en ce moment? Oui. Suis-je en train d'envisager de changer quelque chose dans ma vie spirituelle, une résolution prise avant la désolation, une habitude en place avant cette période sombre? Oui. Quand la réponse à ces deux questions est oui, qu'est-ce que je fais? Je ne change rien, jamais, sans aucune exception. Ce qu'Ignace explique plus tard dans la règle numéro 6, c'est que ce que nous devons changer, c'est la manière de faire face à la désolation elle-même. Nous devons y résister avec courage et sagesse jusqu'à ce qu'elle passe. Et alors seulement, vient le temps où nous pouvons examiner si des changements pourraient être profitables. Mais jamais, au grand jamais, pendant la désolation. Les changements effectués dans ces moments-là, abandonner la prière, laisser tomber l'accompagnement spirituel, délaisser les activités à la paroisse, baisser les bras devant une relation familiale difficile, voire même tourner le dos à un engagement vocationnel, sont tous, toujours, de mauvaises décisions. Notre expérience personnelle nous montre qu'il est vraiment facile de décrocher d'une habitude. Je vais fidèlement à la messe tous les dimanches, pour une raison quelconque, je saute un dimanche et ça ne me paraît pas si grave. Et puis un autre. Et sans m'en rendre compte, je m'éloigne et je finis par laisser tomber cette habitude. C'est vrai pour n'importe lequel des sacrements ou des pratiques, et malheureusement, ça n'est pas sans conséquence. En fait, c'est une des tactiques de l'ennemi. Tu as déjà manqué un dimanche, tu vois? Tu es en train de lâcher. Suis-je vraiment en train d'abandonner? Rappelons-nous que chaque jour est un nouveau jour, que chaque jour nous pouvons recommencer à zéro, que la grâce et l'amour de Dieu sont toujours là. Mais l'ennemi va insister. C'est trop tard pour toi, tu as déjà lâché. Il instille un sentiment de découragement, l'impression qu'il est inévitable, que je lâche. Que faire alors? Toujours la même démarche. Prendre conscience, comprendre et agir pour rejeter. Repérer les caractéristiques habituelles de la désolation, désespoir, manque de confiance, découragement, solitude. Encore une fois, il n'y a aucune honte à avoir, soyez-en sûr. Ce qui compte, c'est le discernement qui mène à l'action et donc au rejet. Ignace lui-même nous explique pourquoi dans la suite de la règle. Il écrit « Car, comme ordinairement c'est le bon esprit qui nous guide et nous conseille dans la consolation, ainsi dans la désolation, est-ce le mauvais esprit, sous l'inspiration duquel nous ne pouvons prendre un chemin qui nous conduise à une bonne fin ?» En temps de consolation, c'est le bon esprit qui nous guide. Comme cet homme qui, pendant la messe, alors qu'il sent la présence de Dieu et qu'il est dans la consolation, prend la résolution de prier chaque jour avec la parole et qui est convaincu qu'il va pouvoir organiser son emploi du temps pour se libérer. Le bon esprit nous guide et nous conseille dans les périodes de consolation. Par contre, nous dit saint Ignace, c'est l'ennemi qui nous guide et nous conseille en temps de désolation. Comme ce même homme, seul, dans son bureau le soir, après une conversation tendue au repas familial, qui soudain pense que tout cela ne sert à rien et qu'il n'y arrivera pas, qu'il ne sait même pas comment s'y prendre. C'est la raison pour laquelle nous ne devons jamais accepter les pensées, les conseils, les suggestions de changement qui apparaissent en temps de désolation. Car c'est le moment où le tentateur, le menteur, est à l'œuvre. C'est seulement dans les périodes de consolation, quand nous nous sentons proches de Dieu, que nous nous ouvrons aux suggestions de changement, car elles viennent de Dieu. Il faut être conscient que ces idées et conseils dangereux qui nous arrivent en temps de désolation peuvent très bien venir de gens que nous consultons, d'amis même. En fait, le bon esprit comme l'ennemi peuvent nous parler à travers ce que l'on appelle le monde autour de nous. Nous pouvons très bien recevoir des conseils et des suggestions de personnes autour de nous qui nous découragent et qui risquent de nous éloigner de Dieu et de nous conduire dans la direction où l'ennemi veut nous emmener. Pourquoi passes-tu autant de temps à prier? Est-ce que tout ça est si important? Ce n'est pas grave si tu rates la messe. Ce genre de message qui nous vient des autres autour de nous. Et c'est tout aussi vrai pour les bénédictions en temps de grâce, peut-être même plus vrai. Très souvent, ce seront les amis ou les membres de notre famille qui, par leurs encouragements à nous engager plus dans notre relation avec Dieu, seront les canaux par lesquels le bon esprit nous guidera et nous conseillera. Alors oui, ça marche des deux côtés. Les esprits utilisent notre entourage pour nous influencer. Mais rappelons-nous que les deux ne sont pas égaux et que Christ est toujours vainqueur. Regardons un exemple dans la vie même de Saint Ignace, qu'il raconte dans son journal spirituel. Il est sur le point de célébrer la messe du matin. Son habitation existe toujours à Rome et mérite la visite, si jamais vous allez à Rome, d'une frugalité toute franciscaine au milieu de l'animation et de la splendeur architecturale de cette ville. Des pièces très simples, où il vécut, sa propre chambre jouxtant la chapelle. Ce jour-là, il se lève et se met immédiatement en prière selon son habitude, dans la consolation. Il se prépare pour la messe, se rend à la chapelle. Il dit la messe et se sent encore en état de consolation, mais il ressent aussi de la tension. Il retourne à sa chambre, seul. Il écrit dans son journal. « Après la fin de la messe et ensuite dans ma chambre, je me suis retrouvé totalement seul. » On sent la pesanteur de la désolation spirituelle. « Privé de toute aide, sans la possibilité de savourer la présence de mes médiateurs. » Par là, il veut dire « Marie avec Jésus et Jésus avec le Père. » Ou d'aucune personne divine, tellement isolée, tellement coupée d'eux, comme si je n'avais jamais senti leur proximité et ne la sentirais jamais plus. Ignace lui-même, au sommet de sa sainteté, plongé dans une désolation plutôt profonde, envahi d'un sentiment d'isolement et d'abandon total dans l'impossibilité de sentir le divin. Et il en parle sans honte aucune. Au passage, notons un autre attribut de la désolation. Non seulement il ne ressent aucun lien avec Dieu maintenant, mais il a l'impression qu'il n'a jamais rien ressenti et qu'il ne ressentira plus jamais rien. La désolation s'octroie faussement le droit d'interpréter le passé et de prédire l'avenir de notre vie spirituelle. C'est comme mettre des lunettes de soleil qui obscurcissent plus ou moins selon l'intensité de la désolation, mais qui dans tous les cas jettent une ombre sur notre vécu. Vous regardez en arrière et tout a l'air sombre. Vous regardez en avant et tout a l'air sombre. C'est la morsure de la désolation. Non seulement tout va mal en ce moment et Dieu est absent, mais en plus ça a toujours été le cas et il en sera toujours ainsi. Mais si vous enlevez les lunettes, les choses ne sont pas aussi noires que le prétend le menteur. On le voit dans le récit de Saint Ignace. Il faut s'attendre à la même chose quand nous aussi nous sommes dans la désolation. C'est important de le dire, parce que si nous nous y attendons, c'est plus facile de s'en rendre compte et de rejeter cette noirceur. Des pensées traversent l'esprit d'Ignace à ce moment-là. Il écrit « Des pensées me venaient contre Jésus, quelquefois contre une autre personne divine. Même cet homme qui aime Dieu, qui lui a dévoué toute sa vie à ce genre de pensées. » Encore une fois, il n'y a pas de honte à avoir. Ignace est tellement troublé par toutes ces pensées qui l'envahissent. Il est sur le point de quitter sa maison, louer une chambre pour fuir tout ce qui le dérange. Il va jeûner, il va remettre en cause toute une démarche de discernement qu'il a entamée et qu'il pensait conclure avec cette dernière messe où il attendait la lumière de Dieu. Il pense que le discernement finit mal, qu'il ferait mieux de tout recommencer. Règle numéro 5. Est-il en train de traverser une période de désolation? Clairement, c'est le cas. Est-il en train d'envisager de changer une résolution spirituelle prise avant la désolation? Sa démarche de discernement qui doit s'achever avec la messe du jour? Clairement, oui. Ignace s'en rend compte, reste ferme sur son plan et conclut effectivement son discernement ce jour-là. Ignace est notre grand frère. Il en parle parce qu'il l'a vécu, exactement comme nous le vivons. Cette règle est tellement importante. Elle nous sauvera de tant de décisions qui nous mèneraient à de grandes souffrances. Notre vie sera tellement plus facile si nous la gardons constamment à l'esprit. Il importe autant de la désolation de ne faire aucun changement, mais de demeurer ferme et constant dans ses résolutions et dans la détermination où l'on était avant la désolation, ou au temps même de la consolation. Car, comme ordinairement c'est le bon esprit qui nous guide et nous conseille dans la consolation, ainsi dans la désolation est-ce le mauvais esprit, sous l'inspiration duquel nous ne pouvons prendre un chemin qui nous conduise à une bonne fin. Dans ses décennies d'enseignement de ces règles à travers le monde, le père Gallagher a eu l'occasion de revoir des gens 10 ou 15 ans après son enseignement, et immanquablement, il lui témoigne comment la règle numéro 5 les a aidés et à quel point ils sont reconnaissants de la connaître. Lui-même témoigne de l'impact répété qu'elle a eu dans sa vie en l'aidant dans les décisions relatives à son ministère de prédicateur de retraite autant que dans sa vie de prière. Il faudrait penser à fabriquer des t-shirts portant la règle numéro 5 pour s'en rappeler toujours et la partager avec les autres.